en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Mesdames et messieurs, et je peux même dire, chers amis, je vous parlerai bien sûr de l'Union économique et monétaire, je vous parlerai aussi de l'Union européenne en général et son avenir. Parce que maintenant, on peut à nouveau parler de l'avenir de l'Union économique et monétaire et de l'Union européenne. Puisqu'il y a 6 mois, 1 an, on prenait un risque de parler de son avenir. Quel est l'état de l'Union? D'abord, commençons avec l'économie. L'économie, en fait, se porte bien. Nous avons une croissance économique de plus de 2% en moyenne en les 2 dernières années et les perspectives pour les années à venir sont du même ordre de grandeur. En fait, notre prestation économique est maintenant supérieure à celle des États-Unis. Les États-Unis ont démarré plus tôt leur redressement, mais nous, par habitant, nous font mieux que nos partenaires entre guillemets transatlantiques. Nous sommes dans la 5e année de redressement économique et le taux de confiance des consommateurs et des producteurs est à un niveau qu'on n'a plus vu depuis 16 ans. Donc, de temps à autre, il y a de bonnes nouvelles. De plus en plus, on doit s'excuser quand on donne de bonnes nouvelles. Ce n'est pas politiquement correct. On doit aller à la catastrophe. Il y a de bonnes nouvelles. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les causes. Simplement ceci, que cette croissance économique est plus solide et plus soutenable que celle avant la crise bancaire, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas le résultat d'une accumulation de dettes excessives privées et publiques. Nous sommes maintenant à un niveau en moyenne du déficit budgétaire dans la zone euro de moins de 1%. On vient de très loin. Alors, ce qui est pour la zone euro capital, c'est qu'il y a les 2-3 dernières années l'amorce, et plus que l'amorce, d'une convergence des développements économiques et même des politiques économiques. On ne peut pas avoir une monnaie commune sans de politique commune. Est-ce qu'on y est tout à fait? Non. Hein? Mais on a fait de très grands progrès. Quand je vois la convergence, point 2, de l'inflation, de la balance des paiements, même du chômage, du déficit budgétaire, c'est assez remarquable. Bien sûr, les niveaux sont encore totalement divergents sur certains plans, entre autres sur le plan du chômage. Mais même sur au niveau du chômage et de l'emploi, il y a convergence dans le développement, dans la direction que les choses ont prises. Donc, cette convergence, j'y reviendrai, est capitale pour avoir une union économique et monétaire stable. Cependant, même si économiquement les choses vont mieux, politiquement, ça ne donne pas les résultats que certains escomptaient. Quand on regarde les résultats électoraux en France et aux Pays-Bas, eh bien, les partis au pouvoir, quoique les résultats dans ces deux pays ont été plus qu'excellents, les partis au pouvoir ont perdu, et pas perdu dans le sens une défaite, quelques pourcentages. Non, c'est une défaite flagrante. Aux Pays-Bas, c'est encore plus clair. Par exemple, le Parti social-démocrate, qui a coopéré très activement à la politique de redressement, entre autres en ayant le ministre des Finances, qui est en même temps président de l'Eurogroupe, a perdu environ 75% de ses voix. Il est passé de 35 sièges à 9 sièges. malgré un résultat économique qui est en fait un résultat sur lequel on peut être fier. Donc le mot de Bill Clinton, « It's the economy, stupid », sa fameuse réplique au père Bush, eh bien, ce n'est plus vrai, ce n'est plus vrai. Donc il y a beaucoup d'autres éléments dans notre société qui déterminent le comportement électoral. Il y a beaucoup d'autres éléments qui expliquent la malaise dans nos sociétés. Maintenant, je reviens à l'économie. Est-ce que tous les problèmes sont résolus? Non, bien sûr. Donc il y a le problème de la compétitivité de l'économie européenne, j'y reviendrai. Il y a le niveau du chômage dans certains pays et des jeunes et du chômage structurel et qui est toujours très inacceptable et même du point de vue des finances publiques qui, comme je viens de le dire, donne un résultat assez inattendu, un déficit de 1 point et même en dessous de 1 point en moyenne, eh bien, il est très dépendant de ce qui se passera les années qui viennent au niveau des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt monteront, je crois qu'ils monteront, mais pas, disons, comparé à ce qui s'est passé dans le passé, mais ça reste quand même fragile où il y a des éléments de fragilité. Donc je suis tout à fait conscient, disons, des défis qui nous attendent, mais entre-temps, si on aurait dit en 2012-2013 que la zone euro créerait 6 millions d'emplois entre 2014 et 2017, 9 millions d'emplois dans l'Union européenne en général, personne ne vous aurait cru. Personne ne vous aurait cru. Donc, de temps à autre, comme je viens de dire, on peut se réjouir de certains résultats. Alors, sur le plan politique, il y a un an, bientôt un an, beaucoup en Europe étaient convaincus qu'en France s'annoncerait une période extrêmement difficile. Même chose aux Pays-Bas. En tant que Flamand, en tant que Belge, je connais bien les Pays-Bas. Tout le monde était convaincu que le parti d'extrême droite serait le parti le plus important aux Pays-Bas. Et on s'imaginait, puisqu'il était le parti le plus important, qu'il y aurait une majorité absolue. Mais aux Pays-Bas, le parti le plus important n'a que 20% des voix. Donc c'était un malentendu pour ainsi dire, mais quand même. Donc il y avait une très grande crainte que le populisme prenne le pouvoir en Europe occidentale. Les choses se sont passées autrement, inutile d'y insister. Ce qu'on voit maintenant, c'est quelque chose d'assez curieux et assez intéressant pour les observateurs politiques, c'est que des partis populistes, en fait, abandonnent ou nuancent leur discours anti-européen et anti-euro. Ça se passe en France. En Italie, le mouvement Cinque Stelle a fait une tentative pour rejoindre le groupe le soi-disant le plus européen au Parlement européen. En fait, ils n'ont pas pu entrer pas parce que certains dans le parti libéral ou dans le groupe libéral s'y opposaient. Sinon, ils seraient entrés dans ce groupe pro-européen. Même dans la campagne autrichienne pour la présidence, le candidat qui a été battu finalement, le candidat de l'extrême droite, a dû prêter serment, pour ainsi dire, que l'Autriche ne quitterait pas l'Union européenne ou la zone euro. Et je peux multiplier les exemples. Ça s'explique pourquoi ? Ça s'explique par un soutien plus large, certainement après le Brexit, de l'adhésion à l'Union européenne et à la zone euro. Les gens, et une très grande partie de nos concitoyens partout, se sentent déjà inquiets, incertains, ont l'impression de vivre dans un monde instable. Et un exit rajouterait encore instabilité à une situation instable. Et donc les populistes ont ressenti ce besoin de stabilité. Un populiste veut être populaire, c'est par définition. Et si l'euro est devenu plus populaires, eh bien, ils suivent. Est-ce que l'euro est populaire dans le sens qu'on entend? Non. Hein. Il n'y a pas d'euro-enthousiasme. Mais en tout cas, il y a une très, très grande conviction, une très solide conviction, quitter l'Union européenne, certainement après l'expérience du Brexit, est une aventure. Deuxième chose aussi intéressante comme observation, que ces partis traditionnels, et là c'est partout en Europe occidentale, les partis traditionnels, qui sont traditionnellement aussi pro-européens, reprennent certainement en grande partie, certains autres en partie, le discours populiste sur l'identité, sur l'asile, sur la migration. Je dirais il y a une forme de convergence. Ça permet, par exemple, en Autriche, de faire un gouvernement sans que le reste de l'Europe soit très ému. Ce qui est un grand changement par rapport au gouvernement centre-droit, mais vraiment droit, au début des années 2000, je crois que c'était avec le gouvernement Schüssel en Autriche. Ça, c'est uniquement une observation en tant qu'observateur politique. Je ne m'attarderai pas sur le cas de la Catalogne, mais aussi dans la Catalogne, on se rend compte qu'on vit dans le contexte européen et qu'il y a une contrainte européenne, qu'on n'est pas reçu à bras ouverts, même si on déclare sa propre indépendance d'une façon unilatérale et anticonstitutionnelle. Et que les autres ont les autres pays de l'Union européenne, en fin de compte, ont le dernier mot. Mm. Et le dernier mot, en l'occurrence, dans leur cas, est négatif. Donc, on se rend compte que il y a l'Europe, et il faut en tenir compte d'un point de vue positif, d'un point de vue négatif. Il se fait aussi que cela cadre aussi d'un nationalisme naissant, renaissant, en Europe encore moins que dans d'autres continents. En fait, le nationalisme est en marche, pour employer un mot qui est familier aux Français, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Russie, en Chine, au Japon. On n'a pas de nationalisme européen. Et même en Europe, le nationalisme national se limite à quelques pays. Mais dans le cas de la Catalogne est un cas exemplaire dans ce sens qu'il y a le début d'un nationalisme régional. Et ça a été provoqué entre autres par la crise. Parce que certaines régions ont eu l'impression qu'on doit payer deux fois. Une fois à cause de la crise, qui frappe tout le monde, et une seconde fois, on doit payer pour les autres. Ça a été un raisonnement tenu en Italie, c'est un raisonnement qu'on a tenu aussi en Belgique. C'est un raisonnement aussi sur le plan européen. Certains pays ont l'impression qu'eux payent pour les autres. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Mais la solidarité est sous pression dans une période de crise. Et là aussi, j'y reviendrai. Donc, je vais fermer ce petit chapitre politique en disant que le mouvement populiste ont perdu certaines batailles, mais n'ont pas perdu la guerre. Et donc, on devra œuvrer les années qui viennent. On a une fenêtre d'opportunité, window of opportunity, les années qui viennent pour donner des réponses à des frustrations et à des inquiétudes de pas mal de nos sociétés. Sinon, le populisme reviendra d'une façon encore plus forte d'ici 4 ou 5 ans. Il y a un autre élément dans cet état de lieu de l'Union européenne, c'est bien sûr c'est le Brexit. Le Brexit est, pour moi et beaucoup d'autres, je crois, une amputation politique de premier ordre. C'est la première fois qu'un pays quitte l'Union européenne. On croyait que le projet était irréversible. Il est voulu irréversible. Et la création de l'Union monétaire a encore renversé cette irréversibilité de la construction européenne. On ne quitte pas. Les liens devraient être si forts que personne aurait encore intérêt à faire la guerre. Et maintenant, quelqu'un quitte l'Union européenne. Est-ce que c'est un hasard que ce soit la Grande-Bretagne ? Non. Il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne a rejoint la construction européenne une génération après les pays fondateurs. Nous avons commencé en 1950. J'ai visité il y a un an le salon de l'horloge au Quai d'Orsay. C'était un moment émouvant, je trouvais. J'y avais jamais été. Là où Robert Schuman a fait son grand discours, eh bien, ils nous ont rejoints en 1973. Bien sûr, le général de Gaulle y est pour quelque chose que ce soit un petit peu plus tard que prévu. Mais quand même, c'est une génération. C'est une génération. Ils n'ont jamais été membres que d'un pilier de l'Union, la construction européenne, le marché commun. Ils ne sont pas membres du second pilier, la zone Schengen. Ils ne sont pas membres du troisième pilier, c'est-à-dire la zone euro. En fait, c'est le pays le moins intégré de l'Union monétaire, de l'Union européenne. En fait, il pouvait quitter plus facilement que d'autres l'Union européenne, techniquement. Pour quitter la zone euro, bonne chance, parce que vous aurez une sanction immédiate des marchés financiers, même si on soulève d'une façon sérieuse l'éventualité de quitter la zone euro, sans bien sûr y être contraint. La Grande-Bretagne est un cas spécifique. C'est pourquoi que la Grande-Bretagne n'a pas été suivie par d'autres dans l'Union européenne. Alors, quatrième point, je crois qu'on se rend de plus en plus compte, après les élections françaises, que c'est la France et l'Allemagne qui doivent à nouveau jouer un très grand rôle dans le relancement du projet européen. On croyait que ce serait, disons, l'Allemagne qui serait dans le rôle de moteur. Il se fait maintenant qu'il y a un renversement. Je crois que la situation politique en Allemagne, je n'ai pas de bol de cristal, mais elle est moins catastrophique que beaucoup le croient. Bien sûr, en tant que Belge, on n'est pas si vite catastrophié. On est catastrophié qu'après 541 jours. Alors là, on se pose des questions. Donc, moi, je ne vais pas donner des leçons de stabilité politique à l'Allemagne. Mais je crois que même après la confection d'un nouveau gouvernement, on doit tenir compte du fait que l'idée de solidarité, j'y reviens pour la première fois, l'idée de solidarité et toute forme de mutualisation est maintenant plus sous pression en Allemagne qu'avant les élections allemandes. Il faut bien s'en rendre compte. Et certaines réformes seront plus dures à faire accepter par nos amis et alliés, partenaires allemands que dans le passé. Il faut s'en rendre compte. Et ça, c'est une première chose. Une seconde chose, c'est que le moteur franco-allemand, il est très important dans tout le domaine socio-économique. Dans le domaine de la migration, dans le domaine de la sécurité en général, on doit tenir compte d'autres parties de l'Union européenne. Certains parlent d'une tension entre l'Est et l'Ouest. C'est plus compliqué que ça. Même en Europe occidentale, la migration est le noyau dur du populisme. Je ne crois pas qu'il y a tellement de différence entre des partis de l'opinion publique en Europe occidentale et en Europe centrale. Les gouvernements réagissent autrement. Je ne suis pas certain, ou je suis convaincu plutôt, qu'au niveau de l'opinion publique, il y ait moins de différence. Mais à nouveau, les gouvernements réagissent autrement. Là aussi, la solidarité est sous pression. Rappelez-vous toute la polémique non terminée d'ailleurs sur la relocalisation des réfugiés à travers tout le territoire européen. Ça a été une décision qui a été prise par un vote au Conseil des ministres, des ministres de Justice et de l'Intérieur. Je ne sais pas si c'était la solution la plus sage. Je n'y étais pas, donc ce n'est pas à moi d'en juger. Mais une fois que la décision est prise, bien sûr, on est dans l'état de droit. On doit l'exécuter. On peut même aller à la Cour de justice pour tester si ça a une base légale suffisante. Ça a été le cas. Maintenant, il faut l'exécuter. C'est un élément capital. Et d'un point de vue, disons, constitutionnel, l'état de droit européen... Et sur le plan, je dirais, moral, c'est la solidarité dont on a besoin aussi dans une crise des réfugiés. Et dans la crise de la zone euro et dans la crise des réfugiés, il faut un compromis chaque fois entre ces deux valeurs qui sont la responsabilité et la solidarité. On a besoin des deux. Je reviens un moment... à l'Allemagne, si on ne peut pas faire davantage ou pas suffisamment de progrès dans le volet solidarité dont on a besoin dans chaque compromis, aussi l'autre volet de la responsabilité est en danger. Dans le couple franco-allemand, l'Allemagne représente le côté responsabilité, mettre sa maison en ordre, compétitivité, finances publiques et autres. La France, tout en n'appartenant pas au Sud, comprend davantage les problèmes et les sensibilités du Sud. Beaucoup plus que les Allemands, ce qui n'est pas si difficile. Mais donc, il faut les deux. Il faut les deux. On ne peut pas applaudir avec une main, comme certains le disent. Si l'un est en danger, le compromis est en danger. Il faut bien s'en rendre compte. Et toute relance de l'Union européenne, de l'idée européenne, aura au moins deux chapitres. Il y a un chapitre où la stabilité de la zone euro est capitale, et un chapitre où le renouveau ou le maintien de la zone Schengen est capital. Et donc, dans les deux, il y a chaque fois un aspect solidarité, un aspect responsabilité. À nouveau, toujours dans l'état du lieu de l'Union, nous devons travailler avec l'Union européenne dans un cadre mondial qui est en train de changer très vite. J'ai déjà fait allusion au nationalisme montant de partout dans le monde. Mais il y a aussi un autre élément. On croyait que le Moyen-Orient était la zone la plus dangereuse dans le monde. L'aspect géopolitique a diminué beaucoup, entre autres par la révolution du gaz et du pétrole de schiste qui a rendu moins stratégique, disons, la position des pays exportateurs aux producteurs de pétrole. Et il se fait maintenant que l'Asie est devenue le continent et certainement le Far East est devenu le continent où il y a le plus de dangers de guerre. C'est un paradoxe. Dominique Moïsi a caractérisé le monde à travers trois émotions. La peur, disons, ça serait, disons, l'Europe. L'espoir, c'est l'Asie, et l'humiliation, c'est le monde arabe. Eh bien, ce continent de l'espoir, certainement dans l'Asie du lointain, il y a un danger de guerre. Il y a le problème de la Corée du Nord, bien sûr, avec leur programme nucléaire et avec un comportement erratique d'au moins deux leaders qui n'appartiennent pas tous à l'Asie. Il y a la rivalité entre la Chine et les États-Unis, rivalité qui n'est pas nouvelle, qu'on sentait déjà sous la présidence du président Obama. Et il y a les exigences territoriales de la Chine qui ont un impact géopolitique, parce qu'on voit aussi, entre autres, un rapprochement entre l'Inde, le Japon, le Vietnam qui est un pays avec 100 millions d'habitants. Donc quand on parle de l'Asie, ce n'est pas un concept homogène. Il y a plusieurs Asies. La composition politique est en train de changer à une très grande vitesse. On parle, c'est un livre de Gideon Rahman, je crois, de « Easternization of the world ». Je ne sais pas comment on doit traduire l'orientalisation, ce n'est pas le bon terme, je crois, parce que ça fait penser aux lettres persanes. Mais il s'agit de l'Asie qui est beaucoup plus loin que l'Iran et les Perses. Mais en tout cas, on parle de cela. Mais en même temps, il y a ce danger de guerre. Le rapport de force dans le monde a profondément changé. C'est pas nouveau ce que je dis, mais il faut bien se rendre compte que c'est surtout sur le plan économique. Et en quelque sorte, l'économie est précurseur du politique et du militaire. Si la Chine occupe un rôle si important dans le monde aujourd'hui, c'est grâce au fait qu'en termes de pouvoir d'achat, parité de pouvoir d'achat, elle est la première économie mondiale maintenant, avant l'Union européenne, avant les États-Unis. Bien sûr, l'armée chinoise s'est développée beaucoup, mais en fait, la base de tout cela, c'est l'économie. Et c'est pour ça que le président Obama, à un moment donné, a parlé de ce « pivot to Asia ». Hein, il faut changer le centre de gravité, c'est l'Asie où les choses bougent et les choses se passent. C'est pour ça que la Russie et la Turquie, maintenant, essayent de se rapprocher de l'Asie, parce que c'est le continent de l'espoir et le continent de l'avenir européen. On verra s'ils ont fait le bon choix, ça c'est autre chose. Et si la balance, le rapport de force est en train de changer sur le plan économique, et que le militaire joue un rôle moins important qu'il y a quelques décennies, il y aurait des possibilités pour l'Union européenne. À nouveau, j'y reviendrai. Quel est l'impact de ces changements sur le plan géopolitique pour l'Union européenne? Bien, d'abord, on est entouré de guerres. En Ukraine, en Syrie, dans l'Afrique du Nord. Et on ne peut plus, comme dans le passé, compter sur un soutien américain inconditionnel, pour ainsi dire, basé sur l'article 5 du traité de l'OTAN. C'est pourquoi l'idée d'une dimension militaire de l'Europe est une idée nouvelle. Enfin, nouvelle, elle était très présente dans les années 50, hein, mais il y a longtemps de ça. Hein. Et donc, les derniers mois, on a fait des progrès qui sont des progrès assez spectaculaires. Je me souviens du Conseil européen que j'ai organisé sur la défense européenne en décembre 2013. On devait se limiter aux aspects économiques et industriels pour avoir ou garder les Britanniques à bord. Hein. Maintenant, on parle de la coopération structurée, permanente, ce que les armées de 23 pays peuvent faire ensemble. Même les Anglais, Boris Johnson of all places, a montré son intérêt par tout ça. On constate que disons, le manque de loyauté du côté de la présidence américaine, eh bien, on constate que ça renforce en fait le besoin de renforcer la dimension militaire de l'Union européenne. Je profite de l'occasion pour vous dire, vous vous souvenez du grand mot, du mot bien connu de Henry Kissinger. Pour l'Europe, qui dois-je j'appeler? On peut se poser la question maintenant par rapport aux États-Unis. Qui doit-on appeler? Le président? Son chef de cabinet? Son ministre de la Défense? Son ministre des Affaires étrangères? Le Parlement? Je n'en sais pas, j'en sais rien. Comment les choses peuvent changer très rapidement? L'Union européenne, dans ce nouveau cadre, ce cadre où les rapports de force sont en train de changer, doit rester, à mon avis, je sais bien qu'il y a en France, qu'il y a des nuances, un champion du libre-échange, du commerce libre et bien sûr juste. Moi, je donne la préférence au terme un commerce basé sur des règles, rule-based trade. On doit le faire aussi sans la Grande-Bretagne. Et ça, il y a suffisamment, disons, de bonne volonté pour continuer à avancer dans cette direction. D'abord, on doit se battre. On doit se battre d'abord à l'intérieur, parce que ce n'est plus une idée qui fait consensus dans l'Union européenne. Donc il y a des tendances et de la droite et de la gauche qui sont plutôt protectionnistes. On doit bien sûr se battre contre les tendances protectionnistes aux États-Unis qui ne se sont pas encore tellement matérialisées, il faut le dire. Mais quand même, le président américain s'est retiré du Trans-Pacific Partnership, cette grande alliance entre des pays américains du Sud et du Nord, des pays asiatiques, sans la Chine. Il a laissé tomber cet accord négocié par l'administration Obama le premier jour de sa présidence, à la grande joie d'ailleurs des Chinois. On est en train de renégocier le NAFTA avec le Mexique et le Canada. Il a de facto arrêté les négociations sur le TTIP, l'accord potentiel entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais comme je viens de le dire, ça n'a pas encore, on ne vit pas encore dans une situation, ce qu'on a craigné à un moment donné, c'est-à-dire une guerre commerciale avec la Chine. Troisième élément, bien sûr, pour l'Union européenne, dans ce monde changeant et sur le plan économique, c'est la différence entre le discours chinois sur la mondialisation et la réalité. La réalité, en fait, est tout autre. Et donc, à juste titre, l'Union européenne demande aux Chinois d'avoir une égalité de conditions pour nos investisseurs en Chine et avoir une égalité de conditions quant aux importations chinoises en Europe, sans que on déclare une guerre commerciale. On est toujours en dialogue avec la Chine. La Chine reste un partenaire stratégique. On a des différends, mais on s'explique toujours. On est toujours en speaking terms, mais la situation est beaucoup plus tendue maintenant qu'il y a quelques années. La meilleure preuve qu'on continue avec cette politique de libre-échange, c'est qu'on vient de conclure un accord avec le Japon, le plus grand accord qu'on a conclu avec l'Union européenne. Et j'espère personnellement qu'on puisse finaliser l'accord avec l'Argentine, avec le Brésil, disons, au courant de l'année 2018. Je sais bien qu'il y a encore des problèmes et qu'en France, pas mal de problèmes sont soulevés. Mais cet accord, c'est un accord extrêmement important au moment où la Chine est en train de conquérir le monde, en Afrique, en Amérique latine, dans pas mal de pays asiatiques. On doit être présent sur le terrain. Je n'insisterai pas sur pas mal d'éléments qui compteraient à la compétitivité européenne quoique c'est extrêmement important, seulement quelques points. On doit rester innovatif malgré le fait qu'on est une société vieillissante. Une société vieillissante, en fait, qui n'aime pas le risque. C'est l'avantage de la jeunesse. On peut être, devenant plus âgé, on peut être extrêmement actif, mais votre période de créativité, en anglais, le jeu de mots est plus subtil, active and creative, hein, en français, ça sonne pour une fois moins bon, hein, mais il est derrière vous. Mais on doit être très innovatif tout en ayant une population plus vieillissante. On doit couvrir, disons, l'écart qui s'est créé avec le Google, Amazon, Facebook et Apple, le GAFA. On a un retard quasi insurmontable. D'autant plus, on doit pas, disons, être à la traîne dans un nouveau marché comme les voitures électriques. Et la Commission européenne en est tout à fait consciente. Elle vient de faire un appel encore hier. Hein. Donc on doit y mettre le paquet pour qu'on ne soit pas dépendant et des États-Unis et de la Chine dans ce secteur, disons, de l'avenir. Nos amis allemands devraient être encore davantage sensibles parce qu'un des grands produits d'exportation, c'est l'automobile. Et l'avenir, ce sont les autos ou les voitures électriques. Il y a la transition vers le low carbon economy. En 2020, on a atteint nos buts, moins 20% de gaz à effet de serre, ou l'émission de gaz à effet de serre, moins 20% en 2020 par rapport à 1990, mais on doit faire moins 40 en 2030. Donc, ce serait un challenge énorme. En général, on doit augmenter la productivité partout. Il y a un ralentissement et aux États-Unis et au Royaume-Uni et en Union européenne de la croissance de la productivité. Pourquoi j'y insiste ? Pas parce que je suis un productiviste, mais il y a quelque chose d'élémentaire. Si on veut maintenir et financer nos modèles sociaux, on a besoin d'une croissance économique de plus de 2%, ce qu'on réalise aujourd'hui. Mais si votre population augmente à peine, elle, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, elle est toujours positive, le développement de notre population. Mais en Allemagne et dans pas mal de pays de l'Europe centrale et de l'Est, elle est en déclin. C'est le cas aussi en Italie, c'est le cas en Espagne. Mais s'il n'y a pas d'augmentation de la population active, d'heures travaillées, eh bien tout le poids pour l'accroissement économique, tout le poids, eh bien, il repose sur la productivité. C'est si simple que ça, parce que le produit intérieur brut est la somme de deux éléments. C'est l'augmentation des heures travaillées et la productivité du travail. Si l'un manque, eh bien, et si on veut avoir un résultat de plus de 2%, il faut augmenter notre productivité. Alors là aussi, j'y reviendrai aussi brièvement que possible. Donc, on a vraiment besoin de relancer le projet européen. Entre-temps, bien sûr, on doit s'occuper aussi l'année prochaine du Brexit. Hein. Ça demandera beaucoup d'énergie de nos leaders politiques. Et j'espère qu'on évitera le pire. Le pire, c'est que la Grande-Bretagne quitte sans un accord. Et quitte disons unilatéralement, sur le plan du droit international, d'ailleurs c'est illégal, mais c'est le grand danger. Le danger est d'autant plus sérieux pour eux que pour nous. 45% de leurs exportations en biens et services, inclus le secteur financier, va vers la direction des 27. Les 27 n'exportent que 8% vers le Royaume-Uni. Donc il y a une plus grande fragilité du côté de anglais ou du côté britannique. Un moment difficile sera décembre, donc d'ici 10 jours. Si on ne peut pas passer au stade suivant, c'est-à-dire négocier nos relations futures, c'est-à-dire un accord de libre-échange, si on ne peut pas passer au stade suivant, là, le danger que certains se disent au Parti conservateur, ça ne sert à rien de négocier. Voyez, ils sont pas de bonne volonté. On quitte sans accord. C'est une réelle possibilité. C'est une réelle possibilité. Et certains veulent payer ce prix économique tout en sachant que ça aura un prix économique. L'économie ne dicte pas toujours l'agenda politique. C'est un manque de rationalité, bien sûr, mais tout le processus du Brexit est un manque de rationalité. En fait, une expression éclatante de populisme. Et il y aurait une prise de conscience, mais il vaut mieux que cette prise de conscience se fasse, disons, avant qu'un drame se passe. Si vous voulez, on pourra en parler davantage si le temps nous reste pour la discussion. Mais je profiterai bien sûr de l'occasion aussi pour parler de la substance que devrait être un programme de relance de l'Union européenne. À mon avis, il y a 3 chapitres. Prospérité, sécurité et équité. Dans la prospérité, et je tiens un raisonnement très simple, je crois que beaucoup le tiennent, si on veut avoir une croissance économique solide pour continuer à financer nos modèles sociaux, il faut davantage de productivité qu'aujourd'hui. On est à moins de 1% par an, en moyenne. Et sur le continent, et au Royaume-Uni, on est même plus bas, et même aux États-Unis. Mais si on veut avoir une croissance de la productivité, il faut investir. Il faut investir, disons, dans le capital financier. C'est pour ça que l'union des marchés des capitaux est si importante. Il faut investir dans le capital humain, quoique c'est une compétence nationale, dans certains pays même régional. Il faut investir dans le capital physique. Donc si on veut avoir une croissance économique, il faut avoir être solide, il faut avoir des investissements. Les investissements sur les 3 points. Que peut faire l'Union européenne? Eh bien, l'Union européenne a, je crois, bien réagi avec son plan d'investissement pour l'Europe, ce qu'on appelle le plan Juncker, qui est exécuté d'une façon minutieuse. Il s'agit de 2% du produit intérieur brut européen. Donc, il s'agit d'un grand programme. Pas à comparer avec le programme chinois, One Road, One Belt, mais quand même avec du jamais vu sur notre continent. On doit continuer à investir dans recherche et développement, aussi sur le plan européen. On a le programme scientifique le plus important dans le monde. C'est 70 ou 80 milliards d'euros sur une période de 7 ans. Le nouveau projet pour le budget européen doit donner une priorité à l'innovation et à la recherche au développement. On doit aussi continuer à travailler sur l'approfondissement de notre marché intérieur, le numérique, l'énergie, les services. On y travaille. Lentement, mais sûrement, mais trop lentement. Et il y a bien sûr les plans pour une vraie union économique et monétaire. J'ai lancé dans le temps, en 2012, le plan avec les 4 présidents. Mes successeurs ont un plan avec les 5 présidents. Donc on sait ce qu'on doit faire. Et sur le plan de l'union bancaire, et sur le plan de l'union économique, et sur l'union, et sur l'union budgétaire. Il n'y a pas un manque d'idées. Il faut du courage et du leadership politique pour prendre des décisions. Bien sûr, ce seront des décisions qui seront graduelles. L'Union européenne, ça se fait comme ça. Ça se fait pas à pas. Moi, j'ai appris le français grâce à deux manuels. L'un, le tome 1, c'était pas à pas. Le tome 2, c'était on va loin. Et j'ai jamais oublié cette leçon élémentaire. Donc là, on est tout à fait conscient de cela. Et on est tout à fait conscient qu'il faut à nouveau ce couple responsabilité et solidarité. Et on le retrouve dans chaque mesure qu'on devra prendre, même la plus petite. Et je crois qu'il est, et c'est mon troisième observation, il faut que dès le début, si on tombe d'accord dans les trois volets, union bancaire, union économique et union budgétaire, pour chaque mesure, il faut retrouver donc cet équilibre, mais il faut aussi des exécutions quasi immédiates pour que ça soit crédible. Pas on va faire ceci en 2022. Ce n'est plus crédible. Parce que depuis 5 ans, on n'a fait aucun progrès dans l'approfondissement de l'union économique et monétaire. Et donc, quand il s'agit du backstop, comme on dit, je ne vais pas entrer dans les détails, pour le mécanisme de résolution de crise, ou pour la garantie pour le dépôt sur le plan européen, ce n'est pas une moindre mesure, pas du tout, mais il faut qu'il y ait un plan, même si c'est un road plan, mais avec dont la première étape est exécutée, de sorte que ça soit crédible dès le début. Dès le début. On doit prendre ces mesures sur les trois plans sans le contexte d'une crise. Certains d'entre vous ont vécu avec moi des crises, et c'est dans la crise qu'on prend des mesures. Et c'est l'abîme en face de vous, c'est le dos au mur et c'est le couteau sous la gorge. Et c'est à ce moment-là qu'on prend des mesures. Maintenant, on doit le faire en dehors de ce contexte. C'est pour ça que le leadership franco-allemand est tellement important. Que les leaders politiques disent, écoute, il n'y a pas de crise, mais on croit qu'un jour, il y aurait une crise financière, pas comparée aux autres, l'histoire se répète, mais jamais de la même manière, et donc il faut être prêt. Est-ce que nous sommes prêts maintenant? Non. Mais nous disons, nous leaders, et je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne, qu'on doit anticiper cette fois, qu'on ne peut plus travailler uniquement dans une situation de crise. Et à nouveau, c'est une question de leadership. C'est une question de leadership. Et pour le plus importante maintenant que dans une période de crise. Et ce n'est pas la Commission européenne qui peut le faire, elle peut apporter des idées. Mais dans le contexte européen, il y a une règle très simple que moi j'ai découvert en remplissant ma fonction, la Commission propose et les États membres disposent. C'est si simple que ça. Bien sûr, il faut un moteur. Bien sûr, il faut des idées. Mais là, il n'y a pas le manque des idées. Ce qu'il faut, ce sont des décisions, et ce qu'il faut, c'est un leadership. Je ne parlerai pas de la sécurité, puisqu'on est ici dans un autre cadre, quoique là aussi, je crois que pour la migration, qui est au cœur du débat politique, qui est le point fort du mouvement populiste, bien avant même la crise bancaire, bien avant la crise bancaire. J'ai vécu ça dans mon pays, je l'ai vu en France en 2001 déjà, ça n'a rien à voir avec l'Europe à ce moment-là, rien à voir avec l'économie, je l'ai vu aux Pays-Bas, je l'ai vu en Autriche, etc. Je parle maintenant d'une façon très générale, il faut remplacer la migration illégale par la migration légale. Si on ne réussit pas à freiner, à ralentir l'immigration illégale, eh bien, on ne trouvera pas le soutien nécessaire pour la migration légale qui, dans pas mal de pays, est inévitable à cause de l'évolution démographique. Mais la rationalité n'a qu'une chance si on enlève certains éléments d'irrationalité. Et donc, c'est le grand défi. On a survécu à cette crise existentielle qui était la crise des réfugiés, mais bien sûr, le problème dominera encore l'opinion publique, nos sociétés, pendant des décennies, ne soit-ce qu'avec l'explosion démographique en Afrique. La dernière composante de ce plan de relance, c'est bien sûr l'équité, sous-estimée. Si le président Trump est au pouvoir aux États-Unis, même s'il a eu que 3 millions de voix en moins que sa rivale, c'est à cause de l'inégalité. Aux États-Unis, les salaires n'ont pratiquement plus bougé depuis 1973. Il faut bien s'en rendre compte. Et si les salaires ne suivent pas la productivité, ce sont les profits qui augmentent. Et alors, le résultat est explicable quand on voit que quelques pourcents des citoyens américains ont accaparé plus de 50% de la croissance économique à partir du milieu des années 75. Et donc, il y a cette inégalité croissante, surtout dans le monde anglo-saxon. Chez nous, il y a les inégalités croissantes entre les États membres, bien sûr. À l'intérieur des États membres, il y a une augmentation des inégalités mesurées avec le coefficient Gini, mais rien à comparer avec les États-Unis. Mais quand même, il y a certains pays qui n'en souffrent pas. Dans mon pays, par exemple, les dernières années, les inégalités ont diminué. Mais nous sommes une grande exception. Je crois que la France n'est pas loin, disons, de la situation de la Belgique. Mais en tout cas, le problème est là. Et la flexibilisation des marchés de travaux et tout ça, la pression par la mondialisation, par le numérique, feront de sorte que il y aura des inégalités croissantes. Et c'est surtout sur le plan national qu'on doit y donner une réponse. Parce qu'on voit les différences, disons, parmi les pays. Bien sûr, au niveau européen, on peut agir aussi, ce qu'on fait depuis 2012 dans la lutte coordonnée contre la fraude et l'évasion fiscale, avec des résultats qui font se sentir maintenant déjà. Il y a la commissaire Vestager qui fait un travail remarquable à l'aide de ses compétences d'aide d'État pour avoir, disons, un level playing field, ce qu'on dit, créer des conditions égales entre les grandes entreprises multinationales et certaines parmi eux et les petites et moyennes entreprises. Il y a la lutte contre le dumping social, le dumping commercial, et je viens de l'évoquer, le dumping fiscal. Il y a aussi des instruments qu'a la Commission européenne pour certains pays quant à la corruption. Mesdames et messieurs, je vais en terminer avec deux considérations encore. C'est celle sur la soi-disant Europe à plusieurs vitesses. Elle est déjà à plusieurs vitesses aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Pas tous les pays sont membres de la zone Schengen, pas tous les membres sont membres de la zone euro. Et on a un instrument pour la coopération renforcée en place depuis le traité de Lisbonne, même avant. On en a fait usage combien de fois ? Deux fois. Donc on peut en parler d'une façon théorique, mais on a les moyens pour progresser, mais déjà maintenant, je crois qu'on a utilisé, que je viens de dire, deux fois, pas sur les plus grands sujets. Donc il y a cette différenciation qui est possible déjà aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller de l'avant dans certains domaines. Là où j'ai beaucoup plus de réserves, c'est que si certains pays se diraient, eh bien, on est à 6, on est à 9, et dans pas mal de domaines, nous formerons l'avant-garde, et les autres devront suivre. D'ailleurs, ce sera très difficile de constituer ce groupe d'avant-garde. Même le Benelux n'existe plus. Les Pays-Bas ont une toute autre option que nous autres. Et parmi les Italiens, dans le groupe où il y avait les Italiens, les Espagnols, les six plus quelques autres, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Mais si on veut aller de l'avant, qu'on utilise les instruments qui sont à la disposition déjà aujourd'hui des États membres. Mais approfondir et renforcer la zone Schengen, la zone euro est pour moi le plus grand défi. Ma dernière observation est celle-ci. Tout ce programme de relance de l'Union européenne, c'est sa phrase bien sûr dans le cadre des traités existants, qui ne changeront pas si vite. On a heureusement, grâce d'ailleurs à la France, un traité de Lisbonne. À un moment donné, ce n'était pas clair du tout, après les référendums ratés. Mais si on ne donne pas de réponse aux frustrations et une grande partie de nos sociétés, l'opération a manqué. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans la rue, et je fréquente encore beaucoup d'endroits dans mon pays, qui me demande qu'en est-il du ministre des Finances de la zone euro. Mais on pose des questions sur l'emploi, sur la migration, sur d'autres sujets. Et donc il faut que, si on a ce plan de relance, ce soit un plan qui répond à un désir profond. Sinon, les populismes reviendront à la charge d'ici quelques années. Et on ne doit pas perdre de vue cette vue d'ensemble, pour ainsi dire. Le grand danger de l'agenda des leaders, comme on dit maintenant, c'est-à-dire le plan du Conseil européen, c'est de travailler sur certains thèmes les deux années à venir ou les 18 mois à venir, c'est de perdre cette vue d'ensemble. Le grand danger, c'est qu'on saucissonne le projet. Un jour, on discute de ceci, l'autre jour, on discute de cela, et en fait, on convainc à la fin personne. Et donc, on doit garder le fil rouge dans toute l'entreprise qu'on a. Bien sûr, ça sera fait à travers des compromis, et je me répète, là où les deux éléments de responsabilité et de solidarité joueront un rôle essentiel. Mais on doit donner cette réponse à cela, parce que pour moi, le plus grand challenge est celui-ci. Comment concilier nos sociétés, nos démocraties, nos économies ouvertes avec ce besoin, comme le président Mitterrand l'a appelé, ce besoin d'une Europe qui protège. Ce n'est pas un terme qui a été inventé récemment. C'est un terme que je me souviens du président Mitterrand. Moi, je l'ai repris il y a 3 ans déjà. Je suis content qu'on en parle aujourd'hui aussi. Mais protéger contre quoi? Contre le chômage, contre les emplois incertains, contre la migration massive et légale, contre le changement climatique, contre le dumping social, commercial et fiscal, contre le terrorisme, la corruption. Et donc, si nos citoyens, une grande partie, n'ont pas ce sentiment qu'on les protège suffisamment, là, ils n'accepteront plus nos sociétés ouvertes, démocratie et économie ouverte. Ils le rejetteront. En anglais, le jeu de mots est plus qu'un jeu de mots. Si on n'a pas suffisamment de protection, on passe au protectionnisme. Protectionnisme. Et donc, c'est le grand défi. Comment avoir une Europe qui est un espace, un space, et la concilier avec la conception de la société comme un place, un lieu où on se sent rassuré, un chez-soi. Comment concilier ceux qui sont en train de de déménager, pour ainsi dire, le « move », comme on dit en anglais, avec ceux qui restent à la maison. Comment concilier ceux qui sont le « web people » avec ceux qui sont, en fait, le « wall people », ceux qui construisent des murs à l'intérieur de leur cœur, ou dans leur cœur, dans leur tête, même des murs physiques. Comment concilier ce « wall people » avec le web people? C'est le nœud du problème. Et c'est pas uniquement un problème européen. C'est aussi un problème pour les États membres, c'est aussi un problème pour les États-Unis. C'est un problème pour l'Occident en général. Et donc la relance du projet européen, à travers des mesures, bien sûr, ponctuelles, très précises, qui vont incarner un compromis, eh bien, dans cette entreprise de relance du projet européen, on doit retrouver, en fait, cette dynamique et cette philosophie. Et donc, ça répond à un sentiment profond de nos concitoyens. On doit y donner une réponse. Sinon, toute l'opération est ratée. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le Président. Alors, vous n'avez malheureusement qu'un quart d'heure compte tenu de vos obligations. J'ai pour l'instant trois questions. La première est de Haïm Korsia.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avais juste trois petites questions, beaucoup plus d'ailleurs une remarque qu'une question. Ce qui aurait été peut-être intéressant, parce que vous nous avez fait un descriptif de la feuille de route. Et ce qui aurait été peut-être intéressant de nous dire, c'est pourquoi vous n'avez pas pu convaincre les dirigeants européens de le faire ? Parce que l'analyse est évidente, vous l'avez montré de manière lumineuse. Pourquoi ? Quels ont été les problèmes pour que les uns et les autres vous suivent ? La deuxième chose, c'est que vous avez insisté à juste titre sur le couple franco-allemand. Est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir à une Europe réelle ? Alors ne le prenez pas mal, évidemment, compte tenu de votre engagement national. Mais est-ce que on ne devrait pas un jour ou l'autre quitter l'abstraction de Bruxelles pour revenir à une capitale européenne qui serait d'ailleurs double, Paris et Berlin, et qui d'une certaine manière reviendrait à la première capitale européenne qui était Aix-la-Chapelle, celle de notre bon roi Charlemagne? Parce que j'ai le sentiment qu'à vouloir créer artificiellement une Europe ailleurs que là où elle est, on s'empêche de la créer réellement là où elle est. Enfin, j'avais deux petites remarques sur la créativité des jeunes. On est toujours le jeune de quelqu'un et le vieux de quelqu'un, ce qui est assez rassurant. Je crois que c'est pas tant à la jeunesse qu'il faut rattacher la créativité, mais à la capacité du lien, à la capacité à créer un lien réel entre les anciens et les modernes. C'est-à-dire à créer une forme d'espace de respect où chacun peut entraîner l'autre. Autrement dit, à ne pas avoir une guerre des générations, ce qui semble être le cas. Parce que si on prend la jeunesse, la question de mai 68, par exemple en France, qui était l'expression de la jeunesse, a amené du bon et a cassé certaines choses. Et ce bilan qui reste à faire, d'ailleurs, n'est pas à mettre exclusivement à la capacité de la jeunesse, il est aussi à mettre au crédit d'une société qui a été capable à un moment de laisser ou pas la parole à sa jeunesse. Enfin, mais ça c'était juste pour moi, j'ai vu vos réticences à considérer la France comme un pays du Sud. Je voudrais juste vous dire que nous avons la Corse, à laquelle je suis très attaché, qui est clairement dans le Sud, et c'est la France. Et puis la France a été motrice dans l'union de la Méditerranée, qui est en fait la réunion des Suds. Donc j'ai toujours tendance à considérer la France comme aussi un pays du Sud.
Monsieur le Président.
D'abord, Jean-Claude Trichet et moi-même sont tout à fait d'accord pour Aix-la-Chapelle. Hein. Nous sommes tous les deux lauréats du prix Charlemagne. Donc, s'il y a une nouvelle capitale, il faut que vraiment il y ait une série de bustes de lauréats du prix Charlemagne. Toute blague à part, chaque capitale, quoi qu'elle est, après un certain temps, a une réputation négative. Hein. Paris est très loin. Washington, ça, c'est le lieu de décadence. Hein. Maintenant, c'est la pauvre Bruxelles qui est responsable de beaucoup de choses. Si on prend une autre capitale, après un certain temps, ce sera plus jamais en Aix-la-Chapelle ou Strasbourg. Hein. Vous avez oublié Strasbourg. Hein. Je vous le signale. Je vous en veux pas, mais je vous le signale. Feuille de route. Vous avez dit pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu convaincre les leaders européens? On avait autre chose à faire. On avait un but, c'est de sauver la zone euro et de sauver l'Union européenne. C'était si simple que ça. On était très monolithique dans tout cela. Mais pourquoi est-ce que mon successeur a eu la crise des réfugiés? Bon, elle a été le moment existentiel, on l'a passé en 2016, il y a un an. Mais je crois que maintenant, pourquoi est-ce qu'on traîne? Je ne crois pas qu'on traîne. Mais pourquoi est-ce que c'est le moment voulu? Et pour avoir ce moment, pour saisir cette opportunité, il faut, je le répète, du leadership. Il faut les institutions européennes. La Commission a lancé quelques idées. Le discours du président Juncker, M. Tusk a lancé son calendrier, la France, l'Allemagne, après la formation du gouvernement allemand, sûrement lanceront de nouvelles idées basées, la grande partie sur des idées existantes, mais il faut trouver chaque fois l'équilibre entre responsabilité et solidarité. Ce n'est pas parce qu'on voit ce qui est nécessaire qu'on le fait. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Saint Paul le disait déjà, je vois le bon, le bien, et je fais exactement l'inverse. Pour ceux qui ont fait encore des études latines, c'est Ovid, video meliora deteriora que sequor. Je vois le meilleur et je fais le pire. Donc, on voit, on le sait, mais il y a ce moment de courage politique. Et certains doivent se montrer plus courageux que d'autres. Une observation sur les jeunes. Ce qui m'a beaucoup frappé, comme beaucoup d'entre vous, c'est cette guerre des générations en Grande-Bretagne, où la jeunesse fait le choix pour l'Europe et la génération qui a connu la guerre fait le choix pour le repli sur soi-même, ce qui est extrêmement curieux, extrêmement curieux. On dit toujours, on travaille pour ses enfants et ses petits-enfants. Et beaucoup en Angleterre ont l'impression que la génération plus âgée a volé l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. C'est pas parce que la Corse est dans la Méditerranée. Je parle pas du plan géographique, je parle du plan politique. Hein. Là, je crois que la France a une vocation qui n'est pas la vocation d'autres. Elle a une place très spécifique et c'est reconnu de par l'histoire. Mais j'ai ajouté, elle comprend les sensibilités du Sud mieux que d'autres. Comment un Belge comprend ça aussi mieux que d'autres? Parce qu'on vit avec deux communautés et deux sensibilités. Donc c'est un, M. Pibereau l'a dit au début, c'est un avantage qu'on a tout ça dans nos gènes. Hein. On n'est pas dans un esprit de confrontation, on est toujours dans un esprit d'entente et de compromis. Donc il ne s'agit pas de la géographie, il s'agit de la politique et je crois que dans la grande, avec le passé historique de la France, qu'elle peut continuer à jouer un très grand rôle.
Jean-Claude Trichet.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'était un immense privilège que d'écouter celui qui a été président de l'Europe à un moment où la crise traversait l'Atlantique et où l'épicentre de la crise était en Europe. Vous êtes arrivé exactement au moment du début, finalement, de la crise des risques souverains. J'ai été très convaincu par ce que vous avez dit sur la réponse finalement des opinions publiques européennes et des peuples européens à la question « est-ce qu'on donne à des populistes anti-européens le pouvoir ou pas ?» Il me semble, et je voulais avoir votre sentiment là-dessus, c'est que c'est en Grèce, finalement, que nous avons eu la première démonstration du fait qu'un pouvoir venant pour sortir de l'austérité et par voie de conséquence, d'ailleurs d'une certaine manière, de la zone euro et de l'Europe, est appelé par son propre peuple à ne pas partir, à ne quitter ni l'euro ni la zone euro, en dépit du fait qu'à plusieurs reprises, l'opinion s'était prononcée apparemment dans cette direction. Et si vous avez un mot à nous dire sur ce que vous avez vécu, ce que nous avons vécu ensemble. En Grèce, ce serait, je crois, intéressant pour nous tous. Deuxième observation, question. En un mot, est-ce que, bien entendu, vous avez dit, c'est très abstrait, le ministre des Finances, toutes les réformes institutionnelles, la Banque Centrale Européenne était également ultra abstraite. Dans l'épreuve, elle a montré qu'elle pouvait être utile et que quand on avait une institution bien construite, ça pouvait servir, y compris dans des circonstances très très difficiles. Donc, que pensez-vous vraiment du ministre des Finances de la zone euro? Que pensez-vous vraiment d'un Parlement européen dans la formation zone euro, pour donner plus de légitimité démocratique aux décisions qui sont prises. Que pensez-vous de vos autres propositions, finalement, que vous avez signées dans le rapport des 4 présidents et que vous avez approuvées, je pense, dans le rapport des 5 présidents? Et troisième question, vous insistez beaucoup sur le magnétisme central franco-allemand. Je crois personnellement à très juste titre, mais comment sentez-vous alors la position des Italiens, des Espagnols, des Polonais à l'égard d'une sorte d'amitié franco-allemande, peut-être un peu qui pourrait apparaître comme étant un peu exclusive et surtout justifiée dans un passé déjà ancien et peut-être moins justifiée aujourd'hui? Ou bien êtes-vous vraiment convaincu que c'est le magnétisme franco-allemand qui est la clé des progrès que nous devons réaliser maintenant?
Je vous en prie, monsieur le Président.
Sur la Grèce, le premier Conseil européen que j'ai pu présider, on a conclu sur un communiqué où, en fait, les deux éléments essentiels pour les années à venir sont inclus. On a dit aux Grecs, il faut mettre votre maison en ordre et, si vous le demandez, on est prêt à vous aider. Ce sont deux petites phrases et, en fait, je me répète, c'est responsabilité et solidarité. Et le peuple grec a payé un prix énorme. Ils ont perdu pratiquement 30% de leur produit intérieur brut. Et donc, à ce moment-là, où ils ont vu le prix à payer pour rester dans la zone euro, ils ont, en 2014, ils ont dit, et ça s'est montré dans tous les sondages, à 75% qu'on veut en tout cas rester dans la zone euro. Et si le Premier ministre Tsipras n'était pas convaincu de cela, il n'aurait jamais fait cette courbe rentrante de 180 degrés. Parce qu'il savait que son peuple ne voulait pas quitter la zone euro. Que le prix à payer était encore plus lourd, même si rester dans la zone euro avait déjà demandé un très grand prix. Donc, Jean-Claude Trichet a tout à fait raison. En fait, c'est la Grèce qui a montré l'exemple que quitter la zone euro n'était pas une option et qu'en fait, nos peuples ne veulent pas quitter la zone euro. Pour les jeunes, mais ça, c'est uniquement le point de consommateur, si à mes enfants qui n'ont jamais connu le franc belge, je dois dire, est-ce qu'on va retourner au franc belge? De quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Pour eux, c'est une partie de leur ADN, hein, donc ça fait partie de leur vie, mais c'est le point de vue d'un consommateur, c'est pas le point de vue, disons. Les institutions, je crois que la Banque Centrale Européenne est beaucoup plus importante que tout ce qu'on peut imaginer dans tous les plans qui sont sur la table maintenant, parce que ça fait partie intégrante d'une union monétaire. Il n'y a jamais eu une union monétaire sans une banque centrale. Il ne peut y avoir, avec une monnaie commune, qu'une banque centrale. Je ne sous-estime pas le rôle des institutions. C'est pour ça que je suis très reconnaissant à ceux qui ont fait le traité de Lisbonne, parce qu'ils ont créé la présidence du Conseil européen. Donc moi, ce n'est pas mon rôle de contester l'importance des institutions. Hein. Mais il faut bien se réaliser que quand on parle, par exemple, d'un ministre des Finances de la zone euro, quand on ne lui donne pas davantage de compétences, on crée des attentes à nouveau sans que ce pauvre homme ou femme puisse y répondre. Mais il y a un problème plus grave. C'est si le président de la Commission, si le commissaire, le commissaire responsable devient président de l'Eurogroupe, eh bien, il est en quelque sorte jugé parti. Il doit proposer des sanctions, par exemple, et présider la réunion qui en décide. C'est pas si facile. La double casquette n'est pas évidente. Ou l'inverse. Hein, mon grand ami Jean-Luc Dehaene, qui est malheureusement décédé trop tôt, a créé la figure à double casquette, le ministre des Affaires étrangères et la commissaire de la politique étrangère. Et il voulait que, en fait, à terme, le président du Conseil européen et la présidence de la Commission européenne deviennent la même personne. Je lui ai dit, écoute, toi, Jean-Luc, tu crois que le président de la Commission deviendra le président du Conseil? Et si l'inverse se ferait? Si le président du Conseil européen deviendrait le président de la Commission, est-ce que tu serais d'accord? Ah non, c'est autre chose. Donc il y a la sensibilité de la méthode communautaire, comme on dit dans notre jargon. Il y a la sensibilité de l'intergouvernemental. Moi, je ne mélangeais pas les genres. Mais ça, c'est une position personnelle. Je sais qu'il y a une longue tradition en France des gouvernements de centre-droit et de centre-gauche et de centre-centre pour défendre l'idée. Je crois que s'il y a une réforme de la zone euro, ça se fera, mais je ne suis pas convaincu personnellement, mais ça n'a pas tellement d'importance. Un contrôle plus fort d'une partie du Parlement européen, je crois que ça s'indique. D'ailleurs, déjà maintenant, le président de la Banque centrale fait un débriefing, je crois, 3 ou 4 fois par an. Donc il n'est pas déconnecté du Parlement européen. Le président de l'Eurogroupe est aussi, plusieurs fois par an, et chaque fois que le Parlement le demande, présent au Parlement européen. Donc il y a un engagement du Parlement européen dans toute cette politique. Si on veut le structurer davantage, je crois que le Parlement européen ne l'acceptera pas, ne l'acceptera que si c'est en son sein, hein, si ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait séparé du Parlement européen. Alors, une dernière chose, parce que je vois le temps qui passe. Bien sûr, il y a le couple franco-allemand, ça fait un petit peu vieux jeu, mais je ne suis pas certain que ça ne peut pas être utile aussi dans l'avenir. La période d'entente entre la chancelière Merkel et le président Sarkozy n'est pas si loin derrière nous. 4 ou 5 ans, ça ne date pas d'il y a des siècles. Il y a 4 ou 5 ans, et ça a très bien marché pendant toute la crise de la zone euro, avec des hauts et des bas, mais ça, en somme, ça a très bien marché. Et la raison n'est pas parce que la France et l'Allemagne sont des pays qui, à eux deux, constituent la moitié de l'économie de la zone euro. Non, il s'agit de... Les deux sont représentatifs pour deux valeurs essentielles dans la zone euro. Et que si eux s'entendent, il y a beaucoup de pays qui peuvent se retrouver dans ce compromis-là. Parce que ceux qui sont plus sensibles à la solidarité se retrouveront dans le compromis. Et sous l'égide des Allemands, beaucoup de pays du Nord se retrouveront dans le compromis si des éléments de responsabilité sont inclus dans le compromis. Et donc, ce n'est pas une question uniquement de rapport de force. Il s'agit aussi du contenu, de la substance. Et bien sûr, il y aura certaines frustrations et certaines arrière-pensées, etc. Mais si, je peux vous assurer, s'il y aurait un accord, qui bien sûr, avec des contacts qui se font chaque jour avec d'autres pays, mais qui y aurait une sorte de compromis sur la table, beaucoup s'en réjouiront. Ils ne diront pas très haut, mais ils seront contents qu'il y a une base pour d'entente. S'il n'y en a pas, c'est le président du Conseil européen qui doit jouer son rôle. Il n'est pas uniquement responsable pour fixer le calendrier et l'agenda. Il est là aussi pour le contenu. Et bien sûr, mais le président du Conseil européen est beaucoup aidé s'il a le soutien, disons, de ces deux grands pays, représentatifs de deux valeurs. Et j'y insiste. Ce n'est pas uniquement question de rapport de force. On met ça sur la table, c'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas le cas. Beaucoup se retrouveront, disons, dans un compromis bien établi.
Monsieur le Président, j'avais sous le coude, si je puis dire, des questions de Jean-Claude Casanova et de Bernard Bourgeois qui ont bien voulu y renoncer. Merci infiniment du temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Toute l'Assemblée vous a écouté religieusement sur un sujet dont nous sommes conscients qu'il est extrêmement important pour l'avenir de nos enfants, bien entendu, l'avenir de nos pays et l'avenir du monde, dans la mesure où l'Europe est un acteur fondamental du monde. Merci infiniment.